Hélène Isabelle, d'ailleurs, le terrorisme et l'espionnage ne semblent pas en pénurie du tout. Lui, semble assez bien alimenté. Il y a un dissident au régime saoudien qui vit à Sherbrooke. Je pense que le régime de son pays d'origine l'a piraté pour espionner ses conversations avec le journaliste disparu Jamal Khashoggi, avec qui il était régulièrement en contact. De ne pas se sentir en sécurité ces temps-ci parce que Khashoggi est entré dans une ambassade et n'y est jamais ressorti. On va appeler un chat, il est mort. Là. On va se dire vraies affaires, c'est sûr. Là.
Probablement de façon horrible en plus.
Il y a des caméras de surveillance partout à l'extérieur. C'est louche et nébuleux de partout, cette histoire-là. Ouais. Alors, tu te dis, hey, il y a un gars à Sherbrooke, contact régulièrement avec. Son téléphone s'est probablement fait pirater.
C'est fait pirater, ça, c'est confirmé.
C'est...
Ah non, les ramifications de cette histoire, puis... En fait, il y a deux volets préoccupants à cette histoire-là. Évidemment, la première chose, c'est le durcissement marqué du régime Ben Salman. Ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, nous, on a Raif et son épouse ici qui nous fait, qui nous rappelle régulièrement à quel point ce régime-là est de plus en plus dur envers ses citoyens et dans ses relations avec l'extérieur.
On parlait d'une modernisation de l'État d'Arabie Saoudite. On nous avait dit, vous allez voir, ça va être une révolution.
On va laisser quelques femmes conduire, puis tout va être beau.
C'est ça. On a mis beaucoup de poudre aux yeux de la part de Ben Salman dès le début de son règne. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'inverse totalement. Là, il en a donné un peu pour en reprendre beaucoup.
Exact. Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet qui sous-tend tout ça, c'est toute la question de l'espionnage informatique. Puis ce logiciel espion qui s'appelle Pegasus, qui est un logiciel conçu par une firme israélienne qui est utilisé par l'Arabie saoudite dans ce cas-ci, mais qui a été utilisé aussi par le Panama. Et on parle aussi des autorités mexicaines pour espionner des journalistes, des dissidents du régime. Ça, c'est une réelle menace à la démocratie dans plusieurs pays, puis on devrait aussi s'inquiéter de ça.
Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, puis tu sais, je suis un peu cynique par rapport à cette situation-là. Quand je regarde tout ce qui se passe avec l'Arabie saoudite, partout dans le monde, on le sait que c'est probablement le pays le plus délinquant au monde, mais pour des raisons purement économiques, on leur passe à peu près n'importe quoi. Et la crainte que j'ai, c'est que là, je vois les gens qui se outrent, sauf Donald Trump, qui lui n'est pas très pressé d'agir à cause de considérations qui lui sont bien personnelles. Il y a beaucoup d'investissements là-bas. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne fait jamais rien sur le long terme avec ce pays-là, qui lui menace, si jamais il y a des sanctions économiques, d'aller acheter ses armes en Russie, même en Chine. Alors, écoutez, il tient tout le monde par les... Et vous savez quel mot je n'ose pas prononcer. Mais il fait... Tu sais, le prince héritier fait même fermer des plages publiques en France simplement pour y installer sa cour pendant quelques jours. Alors, lorsque tu as ce pouvoir-là, que tu ne devrais pas avoir sur les autres pays...
Vous avez entendu Donald Trump en fin de semaine qui l'a menacé de sanctions. Y croyez-vous?
Non.
Ben, pas du tout. Tu vois, moi, je suis plutôt... Hélène est la pessimiste, moi, je suis l'optimiste.
C'est rare, ben, en général, je suis optimiste.
Est-ce que le régime Ben Salman aura dépassé les bornes avec l'assassinat présumé d'un commentateur politique ou d'un journaliste?
Moi, j'ai l'impression que c'est banal.
Qui est publié dans des journaux américains, là, c'est ça qu'il faut dire aussi.
Exact, mais moi, je pense que c'est banal pour l'administration Trump. Ce n'est pas aussi. Là. C'est loin d'être quelque chose de banal.
Mais lui, Trump... il fait ça avec un peu de légèreté, ce que tu dis. Dans le fond.
Non, mais lui, il pense uniquement actuellement à la
l'économie, puis...
Non, mais même pas l'économie, à l'élection qui s'en vient.
Ah
non?
Oui.
En même temps...
À demi-mandat, alors c'est tout ce qui l'intéresse actuellement.
Au-delà de la réaction de Trump, il y a aussi plusieurs grandes entreprises, plusieurs organes de presse qui ont annoncé qu'ils ne se déplaceraient pas au Future Investment Initiative, qui est comme une espèce de sommet de Davos du Moyen-Orient. Il y a aussi eu des impacts sur la bourse de Riyad. Il y a eu des chutes de 7 puis de 6 % samedi et dimanche dans la foulée de représailles potentielles à la disparition de ce journaliste-là. Donc, il y a quand même des signes qui sont envoyés à la dictature en Arabie saoudite pour dire « faites attention, ça peut avoir des impacts économiques et son propre système économique en est affecté ».
Mais ça risque, moi je suis un peu d'accord avec toi Isabelle, les pressions risquent de venir non pas des gouvernements, mais plus des organes de presse, effectivement, puis même des investisseurs privés. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, une bonne partie des États-Unis, en tout cas d'intérêt américain, appartiennent maintenant aux Saoudiens. Alors avant que les Américains se fassent très menaçants, il ne faut pas oublier que les Saoudiens, ils ont aussi un gros mot à dire sur ce que les Américains font actuellement, parce que lorsque on a été acheté, notamment et par la Chine et les Saoudiens, notre pouvoir décisionnel s'amoindrit.
Puis, tu sais, moi, je me rappellerai toujours, je ne sais pas si on remonte dans le temps, là, mais 11 septembre, les terroristes provenaient. Le pays, tu regardes les pays qui ont causé le plus de dommages aux États-Unis, Arabie Saoudite.
Bien sûr.
Et pourtant, en 2004, la commission du 11 septembre avait exonéré l'Arabie Saoudite de toute responsabilité, alors que tu avais des journaux américains qui détaillaient comment il y avait eu une forme de responsabilité derrière les attentats, etc., etc. T'sais. Une fois que tu passes l'éponge là-dessus, là, il te reste quoi?
Mais tu sais, la chose à se dire, là, c'est que moi, je suis tout à fait favorable avec le fait qu'on va choisir d'autres modes d'énergie que le pétrole, parce que c'est vraiment avec ça que l'Arabie Saoudite nous tient. Mais tant qu'on roulera avec de l'essence qui leur appartient et non pas le nôtre, je le sais que c'est un moindre mal, mais c'en est un quand même, ils vont nous tenir. Économiquement parlant, c'est juste une question de gros sous. C'est ça qui est dommage. On ne fait qu'un peu japper, puis après ça, on se couche. Puis, et ça fait des années que ça dure.
Si on reste dans la question économique, là, l'autre chose, si je reviens à l'espionnage, le logiciel qui a été conçu par une firme privée israélienne, et elle prend sur elle de vendre ce logiciel-là à des autorités, puis elle a fait une déclaration en fin de semaine en disant, c'est le NSO Group, en disant que lorsque c'était qu'elle avait des présomptions que c'était utilisé à des fins d'espionnage ou pour des régimes qui étaient un peu trop interventionnistes auprès de ces dissidents, elle n'hésitait pas à retirer les licences. Dit ça en même temps. Quel est le pouvoir qu'on a, nous, les États, de contrôler le développement technologique et à qui ces technologies-là sont vendues? Ça revient au débat qu'on avait aussi sur la vente d'armes. Hein? On l'a eu pendant la dernière campagne fédérale.
La première question qu'on se pose dans ce cas-là, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait avec l'Arabie Saoudite? C'est pas des enfants de cœur, là. Puis là, tout le monde le sait depuis des années.
Non, puis on a une responsabilité comme État de contrôler ça. Comment est-ce qu'on l'exerce?
Autre question, sortons de ce débat ce matin pour parler du chef des conservateurs fédéraux, Andrew Scheer, qui, lui, il a affirmé hier sur Twitter qu'il aurait pas mal mieux négocié le nouvel accord de libre-échange que Justin Trudeau.
Mais d'une part, ça aurait été difficile de faire pire. Donc, en partant, il y a quand même une bonne introduction. En même temps, c'est le jeu de l'opposition de parler de cette façon-là. Puis pour lui, c'est très facile. Il n'y aura pas à le négocier. Alors, il s'en lave un peu les mains.
C'est
fait. Puis en même temps, je me dis, et ça, là, c'est vraiment un feeling personnel, c'est que Andrew Scheer, peut-être qu'il ressemble davantage à Donald Trump que Justin Trudeau. À un moment donné, tu regardes Justin Trudeau qui fait un peu peace and love et tout le monde, il est gentil. Puis tu as Trump. Est-ce qu'il aurait été en mesure d'avoir une équipe plus performante? Peut-être. Ouais. Mais on a à peu près tout perdu. T'sais, en réalité, là, on n'a rien gagné là-dedans. Alors, ça aurait été difficile de faire
nous, pire. Au Québec, en même temps, dans le reste du Canada, il y a, pour l'automobile, tout ça, il y a certains gains ou certains aspects qu'on a sécurisés qui sont quand même intéressants.
Mais c'est particulièrement à nous qui s'adressait, là, parce que la faille, ça vient vraiment de la gestion de l'offre.
Sauf ce qui est intéressant d'un point de vue tactique politique là-dedans, c'est qu'Andrew Scheer a fait cette déclaration-là sur Twitter hier soir. Elle était facile, en 140 caractères, c'est pas mal tout ce qu'il était capable de dire. Et après ça, des journalistes ont tenté de communiquer avec son service des communications pour avoir un peu plus de détails, puis ils ont été incapables d'en donner. Ils ont décidé de ne pas répondre aux questions des journalistes. Ça me fait dire, tu sais, Twitter, c'est le fun, là, mais quand tu décides d'utiliser ce médium-là pour te positionner, ben, il faut aussi que si tu arrives à accrocher des journalistes avec ton tweet, que tu sois capable après ça, de mettre un peu de chair autour de l'os.
Oui, mais Isabelle Fontaine, c'était malheureusement dimanche soir. Ils ont essayé de le rejoindre. C'était pas possible. Dimanche soir.
Je sens ton ironie. Dimanche soir, il était sur son divan. Il avait le temps d'écrire lui-même
après
sur son compte
de
Twitter. mais sa direction des coms était en week-end. C'est ça, ouais.
Mais c'était facile quand même. C'est un ballon de plage, là, excuse-moi, parce que tu sais, en réalité, t'as fait aucun gain. Vont dire les libéraux, c'est on a évité le désastre. C'est ça leur gain.
Pour lui, le Scheer actuellement, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Il va utiliser n'importe quelle tribune pour dire youh, j'existe.
Absolument. Puis, tu sais, il est allé en Inde là, pendant plusieurs jours, puis il a été très content de nous dire qu'il portait le veston-cravate hein, à plusieurs reprises. Je pense qu'on peut le noter.
C'est quand même une petite fleur sur la tête. Là. Je l'ai vu avec son petit.
Ouais, moi aussi, j'ai vu ça.
Je m'en vanterai pas trop rapidement. Et ce serait ironique de le voir quand même raconter aux producteurs de lait québécois que moi et mon parti de l'Ouest, on vous aurait défendu. Ouais. Je ne sais pas, là. Je demeure sceptique.
On verra si on lui donnera la chance de nous prouver ça dans le futur.
On se reparle demain. Merci d'avoir été là.
À demain.
Bonne journée.